Our next presentation will be given by
Prochaine présentation, Madame Lisa Court, École des services sociaux. Juste un mot avant de passer le micro à Lisa. Le perfectionnement professionnel s'est rentré dans la mesure 2 dès le départ. Et donc, on a décidé à un moment donné qu'il fallait vraiment qu'on commence par le début. Donc, commencer par une évaluation des besoins. Ce que les professionnels anglophones dans la région cherchaient en matière de perfectionnement professionnel. Donc, on a eu Michael Udy, qui avait déjà travaillé sur un autre projet, pour vraiment avoir une bonne idée de ce que les gens souhaitaient avoir. Et vous verrez que c'est très important pour nous de recevoir toujours votre feedback, votre rétroaction. Donc, je voulais juste arrimer la question du perfectionnement professionnel avec nos initiatives. Alors, je vais commencer par dire que être ici là pour faire une présentation, dire que je fais une présentation, c'est un petit peu trop ambitieux par rapport à ce que je vais faire en réalité. Alors, j'aimerais vous remercier de m'avoir inclus dans cette manifestation, ce séminaire. Et ce qui m'intéresse, en fait, c'est les opportunités en matière de perfectionnement professionnel. Alors, de mon côté, je suis avec l'École de services sociaux, McGill. Alors, c'est un domaine de grand intérêt. Et ce que je voudrais faire aujourd'hui, je sais qu'ensuite on aura une pause, c'est vous inviter, je ne pense pas que ce soit dans vos documents, mais à l'inscription, vous avez des formulaires qui vous demandent vraiment de la formation de base, très simple. Alors, j'aimerais que vous le remplissiez, ce formulaire, ou que vous passiez peut-être une couple de minutes avec moi à la pause pour que j'aie un feedback de votre part directement par rapport aux besoins en matière de perfectionnement professionnel avec les cliniciens avec lesquels vous travaillez et qui offrent des services à la clientèle. Qui cherchent à avoir des services en anglais. Alors, je sais qu'il y a eu beaucoup d'informations qui ont été partagées. C'est intéressant d'entendre les différents projets qui ont été lancés, qui sont encore en cours. Et si vous voulez bien, j'aimerais vous inviter vraiment à passer quelques minutes pour partager de l'information avec moi. Je pense que ce serait intéressant pour que l'on puisse vraiment avoir une base solide à partir de laquelle développer un travail ensemble en matière de perfectionnement professionnel. Et je pense que ça, c'est directement lié aussi au maintien en poste de personnel qui apprécie son travail, qui aime son travail. Parce que quand on est professionnel dans une communauté, ce qui invite les gens à rester, c'est le fait qu'ils sentent que leur travail a un sens et qu'ils peuvent vraiment s'investir, s'engager pleinement dans leur travail. Donc, l'idée, c'est d'offrir des occasions d'échange et d'apprentissage réciproque. Voilà. Alors, allez-y si vous avez des questions. Désolée. Alors, toutes ces agences-là ont des offres du perfectionnement professionnel dans le cadre de leur programme, n'est-ce pas? Chaque agence a ses propres couleurs en matière de perfectionnement professionnel. Par exemple, si vous prenez le plan d'intervention, Je travaille pour protection de la jeunesse. Là, en Montérégie, il y a un format qu'ils suivent pour les plans d'intervention. Si on s'en va de l'autre côté du fleuve, ils viennent de développer un nouveau plan d'intervention basé sur le cercle du courage, par exemple. Alors, ils pensent que leur plan d'intervention est absolument extraordinaire. La Montérégie, de son côté, pense que son plan d'intervention est extraordinaire. Alors là, ce qu'on veut faire, c'est dire, bon, ben, ceux anglophones, pour les anglophones, vous avez des très bonnes idées aussi. Donc, je pense qu'il faut qu'on intègre ce qui est offert dans le système pour que ça ne joue pas les uns contre les autres. Parce que dans le centre jeunesse Montérégie, la médiation est vraiment l'élément clé. Donc, il y en a qui arrivent avec leur technique et des fois, ils se sentent frustrés parce qu'ils veulent de la formation de McGill pour ça, mais l'établissement a déjà investi beaucoup d'argent, mais dans autre chose. Donc, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut arrimer tout ça, mais dans le fond, vous engagez dans des systèmes qui sont déjà structurés, qui ont déjà leur propre cadre, n'est-ce pas? Donc, d'un côté, c'est bien, mais d'autre part, faut quand même faire attention parce que des fois, on risque de se trouver face à des portes fermées parce que les gens trouvent ça trop compliqué. Quand vous avez déjà une formation, vous arrivez avec une autre formation, alors c'est quoi qu'on veut que les gens suivent, que les professionnels ils suivent comme formation? Ça rentre comme en conflit. Alors, c'est sûr qu'il y a un gros volume de formations disponibles et parfois, il y a des modèles qui sont ajustés un petit peu différemment, dépendamment d'une organisation à l'autre. C'est vrai. Mais je pense qu'à partir de l'école du travail social, on recueille de la formation le plus possible directement des professionnels. C'est quoi qu'ils identifient eux-mêmes déjà au départ comme utile. Par exemple, ils pourraient dire comment est-ce que je gère l'anxiété de mon client, par exemple, quand je place la fille, l'enfant de mon client. Il pourrait avoir besoin d'autres types de formations qui sortent des modules, des cadres qu'on a déjà. Alors, je me rends bien compte qu'il y a une complexité qui est liée à ça, à l'idée d'offrir différents types de formations. Et c'est sûr que nos journées sont limitées pas en nombre d'heures, donc les professionnels ont un certain nombre d'heures limitées aussi attribuées à dédier aux formations. Alors, merci. Merci beaucoup.
We are... Yes, Jim.
Je me rends compte qu'on a encore un petit peu de temps. Vous allez peut-être m'en vouloir pour prendre la parole maintenant, mais cette mesure du projet McGill en termes de support de perfectionnement professionnel, il y a quand même une autre dimension à l'activité. C'est encore à ses toutes premières étapes. Alors, je me demandais si peut-être on pourrait partager certaines des premières considérations qui sont ressorties des rencontres du groupe d'études, là, le focus group.
Hello, my name is Michael Udy.
Donc, mon nom est Michael Udy. Je travaillais déjà pendant plusieurs années au centre comme conseiller en formation, en perfectionnement. Alors, je m'attendais pas à devoir venir à l'avant pour parler, mais j'ai écouté avec attention les différentes conversations qu'on a eues sur le développement professionnel, sur perfectionnement professionnel. Donc, il y a dans les mesures l'idée d'essayer de comprendre les besoins des professionnels en matière de perfectionnement pour les personnes qui travaillent dans des institutions avec des populations, une clientèle anglophone. Ça a l'air simple de parler de ça, mais plus on regarde ça dans le détail, on analyse ça dans le détail, plus on comprend que c'est complexe. Donc, il y a d'abord deux aspects sur lesquels j'aimerais apporter des commentaires, parce que je ne peux pas vous parler du produit fini encore, je peux vous parler juste des phases initiales de tout ça, de cette initiative. D'abord, la dimension qui a fait l'objet des échanges entre Lisa et Michael, c'est, je vais la situer, parce qu'il y a une différence entre offrir un appui directement aux individus qui ont exprimé quels sont leurs propres besoins versus les besoins des organisations qui s'assurent que leur personnel ait les connaissances appropriées. Et c'est vrai aussi que toutes les organisations déterminent leur propre programme de formation qui sont basés sur les compétences qu'ils veulent développer dans leur personnel. Donc, c'est normal que, dépendamment des organisations ou des établissements, il y a des ressources plus ou moins limitées qu'on peut affecter à ces cours de formation. L'intérêt d'une organisation comme celle de McGill et d'autres écoles doit se positionner entre essayer d'assister des institutions dans ce qu'elles ont à offrir à leur personnel ou bien cibler davantage les professions individuellement, par exemple les membres de l'ordre des travailleurs sociaux ou autres, essayer de répondre directement à leurs besoins, les besoins de cette catégorie-là, parce que ce qu'on offre dans un contexte ou dans l'autre va varier comme contenu. Donc ça, c'est une première chose qu'il faut distinguer. Et puis, il y a d'autres problématiques sur lesquelles j'ai travaillé, sur lesquelles je travaillais hier aussi. Et je peux vous dire que hier, à Rouyn-Noranda, la température, c'était de 23 degrés. Je ne sais pas si personne n'a jamais connu une température de 23 degrés à Rouyn-Noranda au mois de mars. Alors, pour revenir à ça, la deuxième façon de regarder la question du perfectionnement, la suivante. Il faut partir d'une hypothèse parce que je me rends compte qu'il n'y a probablement pas juste une hypothèse, mais prenons-en une. Et quand on parle des professionnels anglophones qui souhaitent acquérir les outils reliés à leur profession et jusqu'à quel point ils sont prêts à sortir de l'île de Montréal et aller dans des établissements publics ou dans des pratiques privées ailleurs dans la province et travailler, se retrouver à travailler dans des environnements, des contextes communautaires ou professionnels qui sont plus francophones. Bon, qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que ça veut dire pour les gens de se retrouver dans ces contextes-là, dans ces milieux-là? Et qu'est-ce qui aiderait les gens à y aller et à y rester, dans le fond. Parce que c'est dans notre intérêt, quand on veut améliorer l'accès, examiner d'abord les conditions qui vont encourager les gens à aller dans des régions ou à rester dans des régions et à se mettre à la disposition des gens, offrir leurs services. Donc, on part de l'hypothèse de quels sont les besoins des individus qui se tournent vers ça. Donc, on ne parle pas vraiment de formation, mais on parle de support, d'appui, d'accompagnement, que ce soit sur le plan social ou autre. Mais on ne sait pas, on ne l'a pas cerné exactement. C'est pour ça qu'on se penche sur la question. Quels sont les besoins que vous avez comme professionnel anglophone quand vous vivez ou exercez à Jonquière ou à Sherbrooke? C'est quoi qui vous outillerait? Et plus je me suis penchée sur la question, plus je me suis rendu compte qu'il y a aussi une deuxième réalité qu'il faut prendre en considération. Parce que si vous considérez un peu partout au Québec qui offre des services aux anglophones qui cherchent des services en matière de santé, en matière sociale. Alors, il y a ceux qui sont des anglophones qui répondent à ça. Mais je commence à penser, mais je n'ai pas encore les chiffres pour ça, que la majorité des gens qui répondent sont en fait des francophones. sur les francophones qui ont des compétences en anglais aussi et qui sont prêts à répondre à ces besoins et voir les plans d'accès, voir qui cibler. Et c'est à peu près la moitié, 50%, sinon plus, qui est assumé par les francophones. Et ça, ça mène à une autre question. Parfait. Et alors, ces personnes-là, est-ce qu'ils ont besoin, est-ce qu'ils ont des besoins d'appui? Qu'est-ce qui les encouragerait à continuer à aller de l'avant dans cette direction-là? Ou qu'est-ce qui les motiverait à s'engager dans cette voie? Et ma visite en Abitibi-Témiscamingue, c'était justement dans cet ordre d'idées-là. J'ai rencontré 13 personnes, dont un simplement s'est identifié comme anglophone, travailleur social qui vient de Niagara Falls. Tous les autres avaient des origines québécoises ou francophones. Ils avaient tous des différents niveaux d'anglais et d'une façon ou de l'autre, ils étaient devenus engagés ou s'étaient identifiés. Et certains m'ont dit, une fois que vous commencez à offrir des services aux anglophones, vous ne pouvez pas fermer la porte parce que vous avez commencé au départ, alors ensuite vous vous trouvez dans ce créneau-là. Mais on leur a posé la question, de quoi ça a l'air? Comment ça se passe? C'est quoi qui est difficile pour vous? C'est quoi qui vous pose des problèmes? C'est quoi qui est agréable? On veut savoir comment se déroule votre expérience. Alors, ça nous a donné quelques idées. Et il y a deux thèmes qui sont vraiment émergés clairement de ces rencontres. Le premier thème, c'est que les gens qui offrent des services en anglais sont souvent en train d'utiliser du matériel, des programmes, des outils d'intervention qui ont été développés et documentés en français. Souvent, les gens se retrouvent à les expliquer en anglais, mais à expliquer ces formations en anglais, mais ne peuvent pas donner des pamphlets en anglais ou de la documentation ou des outils écrits en anglais. Et donc, les gens disent que ce serait vraiment utile si on pouvait avoir accès aux versions anglaises de tous ces outils-là, de façon à ce que quand on a des patients ou des clients anglophones, on leur donne tout le matériel, parce qu'ils ne sont pas certains que leurs clients autrement comprennent. Ironie du sort, pendant ces derniers mois, j'ai également participé à un projet qui nous a amené à rencontrer ce qu'on considérait des anglophones typiques qui avaient accès à des professionnels de la santé. Et on entendait toujours les mêmes thèmes qui revenaient. Alors, ils nous disaient que oui, ils obtiennent des services, mais c'est toujours difficile d'obtenir de la documentation en anglais. Ou ils ne savent pas à qui s'adresser pour avoir les outils en anglais. Alors, tout d'un coup, ça a cliqué. Les gens qui demandent ça ont du mal à avoir accès à la documentation. Et les gens qui offrent ces mêmes services ont les mêmes difficultés. Alors, ça se rejoint. Et ça m'a frappé comme un domaine faible et où il faut donner un appui. Il faut que l'on outille ou que l'on appuie ceux qui offrent des services en anglais aux gens qui demandent ces services-là en anglais. Et souvent, ils ne sont pas outillés, ils n'ont pas tout le matériel qu'ils souhaiteraient avoir pour le faire. Vous me suivez? Ben, j'ai rien préparé, alors j'improvise. Mais est-ce que c'est clair? Et puis, l'autre chose, l'autre thème qui est ressorti, et je sais qu'il y a des activités autant dans la mesure 1 que dans la mesure 2 qui rejoignent ça, mais je n'ai pas parlé avec Mireille encore, alors je ne voudrais pas qu'elle panique en entendant ça, mais j'ai rencontré un bon nombre de personnes qui ont bénéficié des cours en français. Beaucoup de gens ont dit, j'ai pris un cours en français, plus qu'un cours en français. Et on parle des cours appuyés par le projet. Non, je parle de l'anglais, je m'excuse. Donc, les francophones qui ont pris des cours d'anglais, c'est ça. Mais ce qu'ils disent, c'est que ce n'est pas suffisant. Parce que uniquement peut-être 20% de mes clients sont anglophones, donc je ne me trouve pas à utiliser mon anglais assez souvent. pour l'améliorer. Alors, il faudrait que je trouve des opportunités pour le pratiquer davantage, l'anglais. Et il y a ces occasions, ces opportunités, mais ça demande un peu plus d'arrimage, je ne sais pas. Je ne sais pas comment est-ce qu'on pourrait s'y prendre, mais c'est clair qu'il y a un besoin. Les gens aiment le fait de pouvoir apprendre comment utiliser davantage l'anglais dans leur travail. Mais pour ça, ils ont besoin d'occasions, d'opportunités pour développer une plus grande aisance. Et ça, à son tour, ça va augmenter aussi le maintien en poste, évidemment. Ce que je voulais ajouter aussi, c'est que il y a différentes façons de répondre aux besoins professionnels, besoins de perfectionnement professionnel. Une des dimensions, c'est de voir quels sont les types de supports dont les gens ont besoin, qu'ils soient anglophones ou qu'ils soient francophones, quand ils offrent des services à des gens qui souhaitent avoir des services en anglais. Je vous remercie de votre attention.